Jean-Marie Vanesson pour RPL Radio, la radio du Pays Lorrain, dans le cadre de nos entretiens réguliers avec le député de notre circonscription, Ludovic Mendès. Eh bien, nous sommes allés à sa rencontre. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour, Jean-Marie.
En politique, c'est un peu comme avec le temps en ce moment. C'est maussade, c'est gris, c'est pas drôle. Avant qu'on aborde les travaux auxquels vous avez participé depuis notre dernière entrevue, qu'est-ce qui s'est passé pour que notre président prenne une décision comme celle-là? J'ai lu dans la presse que vous aviez vous-même été étonné.
Je crois que le terme que j'ai employé, c'était abasourdi. Abasourdi le soir même, ce qui est normal. Je veux dire, cette annonce a été un choc, a été une annonce forte quand même. Je veux dire, dissoudre l'Assemblée nationale après une élection européenne où malheureusement l'extrême droite finit à plus de 30%. Et nous, majorité présidentielle, avec un écart presque équivalent à la moitié. Donc oui, c'est un choc. Le choc, c'est l'élection, ce qu'il s'est passé. Et le deuxième, moi qui m'a abasourdi ce moment, c'est quand le président de la République dit « je dissous l'Assemblée nationale ». Abasourdi pourquoi? Parce que nous n'étions pas préparés. Abasourdi tout simplement parce que sur le coup, je me suis posé la question, est-ce qu'il fait le bon choix ou il ne fait pas le bon choix? Je crois que tous les Français se sont posés cette question. Est-ce que le président de la République a bien fait? Moi, je pense que quoi qu'il arrive, c'est sa décision, on doit la respecter. Il est le chef de la nation, il est le responsable des institutions et le garant de la Constitution. Donc il a choisi d'engager la Constitution. Je soutiens cette démarche. Je pense qu'il y a aussi un besoin de revenir au peuple. C'est une réalité. Je veux dire, tout le monde l'a dans sa bouche, mais personne ne le fait réellement. Là, ça a été fait par le président. Alors que c'est sûr que dans un contexte un peu morose, où on se pose plein de questions, on se demande où on va, ce qu'il se passe, et que les gens ont peur, parce que la guerre est à nos portes, parce qu'on voit des alliances de plus en plus particulières se nouer, la Russie avec la Corée du Nord, la Chine, l'Iran. Tous ces pays sont aujourd'hui des alliés face à des démocraties comme les nôtres. C'est vrai que ça peut faire peur à beaucoup de Français. Même certains pensent que le seul sujet aujourd'hui, c'est l'immigration et le pouvoir d'achat. L'arrêté, c'est qu'il n'y a pas que ça. Oui, ce sont des sujets importants, vitaux pour notre État. L'arrêté, c'est qu'immigration, on va peut-être laisser déjà la loi s'appliquer, parce qu'on a quand même eu des modifications dures dans la loi qui a été votée au mois de décembre 2023. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas 6 mois, le temps que les décrets soient pris et compagnie, et que ça s'applique correctement, qu'on voit les résultats. Parce qu'on voit toujours une loi au bout d'un an, voire 3 ans, ce qu'on appelle une évaluation de la loi. Là, on n'a même pas le temps de le faire, qu'on nous explique que cette loi ne pourra pas fonctionner. Et sur le pouvoir d'achat, on mène tous le même combat. Et l'arrêté, c'est que tous les chiffres démontrent que la France a eu le meilleur du pouvoir d'achat sur les 20 dernières années depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors, on peut lui reprocher plein de choses. Je pense qu'on peut reprocher énormément de choses au président de la République sur des petites phrases, sur la manière de pouvoir manquer parfois d'humilité, parce que c'est ce qui nous est raconté aussi dans la rue, hein, quand on rencontre les différentes personnes. Mais je crois qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain en se disant que parce qu'il a tenu ces petites phrases-là, c'est pas la bonne personne. Parce que quand on regarde la création d'emplois, quand on regarde notre véritable pouvoir d'achat, quand on regarde tout ce qui a été mis en place par l'État, parce qu'on nous dit qu'on est des libéraux et qu'on ne fait pas de social, on a de quoi démontrer que c'est faux. Mais il y a un besoin dans notre pays d'avoir un meilleur confort de vie, c'est une réalité. Mais juste le gouvernement, juste le président de la République, juste les parlementaires, ça ne suffira pas. Il faut que ce soit un travail d'union nationale. Et quand je dis d'union nationale, c'est pas de couleur politique. C'est que tous les élus de France, qu'ils soient municipaux, départementaux ou régionaux, ont toute leur place aussi dans cette union nationale pour faire en sorte d'apporter des meilleures réponses au quotidien des Français.
Le quotidien des Français, il faut bien le dire, il n'est pas tout rose non plus. On ne peut pas faire autrement que d'entendre certaines remontées. C'est aussi des réalités à laquelle sont confrontés tous les Françaises et Français.
Et on ne l'a jamais nié, parce que d'ailleurs c'est un combat que nous avons mené. Je veux dire, la France est le troisième pays d'Europe en termes de pouvoir d'achat, le moins impacté par l'inflation. On est au-dessus de l'ensemble des pays européens équivalents. L'Allemagne est très loin devant nous sur le fait qu'ils n'ont pas réussi à protéger leur population. Je rappelle que pendant la Covid, on a tous préservé nos salaires à 100% et on est le seul pays du monde où c'est arrivé. Tout ça, on l'oublie parce qu'on se dit que c'est normal. Mais tout ça, ça a un coût. C'est un coût pour les finances publiques, c'est un coût pour le citoyen français, parce que notre combat majoritaire pendant ces temps, ça a été de baisser les impôts, de jamais les augmenter. Alors parfois avec quelques erreurs, parce que j'aurais aimé qu'on augmente les impôts, par exemple sur les super profits chez Total, chez CMH, CGM. Moi, c'était mes combats personnels, non pas parce que c'est une valeur, je ne sais pas, de gauche ou je ne sais trop quoi. C'est parce qu'aujourd'hui, ça infuse dans l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'on doit tous participer à cet effort national. Et peut-être que là, le ministre de l'économie a raté le coche pour répondre aux Français en disant « on a compris aussi le fond du sujet et vous apporte apporter les bonnes réponses. Donc, nous, on ne veut pas augmenter les impôts et on veut faire en sorte que les Français vivent mieux. Donc, la facture, elle a augmenté, oui, mais elle a été limitée en termes d'impact. Elle aurait dû augmenter de 80%. Elle a augmenté de 15%. Alors oui, ça fait mal, c'est très compliqué. Alors je parle pour le particulier. Pour les professionnels, c'est autre chose. Je l'ai vu dans mes immersions avec, en boulangerie, par exemple, à Montigny, ou alors la dernière que j'ai fait il y a 3 semaines maintenant, dans une cordonnerie à Metz. Il est vrai que c'est un impact important dans le budget et que les contrats signés par les professionnels ne sont pas du tout les mêmes que ceux des particuliers. Et donc, il faut qu'on regarde comment on peut encore accompagner. Mais les discussions que j'ai encore aujourd'hui, c'est oui, ça baisse. Et on est en train de renégocier nos contrats qui nous permettent de revenir à la normale. Donc, ça démontre bien qu'en fait, c'était une période compliquée. C'est très complexe. Et il est certain que quand on enchaîne 5 années un peu complexes avec la Covid, avec la guerre en Ukraine, avec une crise économique mondiale, et bien tout ça, ça fait peur aux Français. Mais je rappelle aussi que sur les 5 dernières années, on a un taux d'épargne qui a explosé. Donc, ça démontre qu'il y a quand même du pouvoir d'achat.
Vous dites qu'il a explosé. Ça veut dire quoi ?
On a pris près de 30% en épargne des Français. Sans compter la période Covid, qui est une période exceptionnelle, où vu qu'on pouvait très peu consommer, qu'on se déplaçait moins, il y a beaucoup de personnes qui ont pu mettre de l'argent de côté. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est important de pouvoir se construire une épargne. Mais on est le pays d'Europe aujourd'hui qui a le plus d'épargnants, et qui a le volume d'épargne le plus élevé. Donc ça montre bien que notre pays n'est pas non plus dans une grande difficulté. Il y a des millions de Français en difficulté. Il y a un taux de pauvreté, certes, qui est élevé, même s'il est un des plus bas d'Europe. C'est important à rappeler. On a toutes ces difficultés, mais en France, on trouve toujours une réponse à notre problématique, que ça soit avec un RSA, que ça soit une personne en situation de handicap avec une allocation adulte handicapé, que ça soit quand on perd notre travail pour aller au chômage, et même quand on n'a pas retrouvé de travail tout de suite, on a un accompagnement temporaire. Certes, ce ne sont pas des sommes mirobolantes, mais c'est pas à l'État d'apporter ces réponses financières, étant donné que c'est par le monde du travail, l'émancipation se fait par le travail. Et notre combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les salaires payent mieux. C'était la loi que j'avais rédigée, dont on avait déjà parlé, que je devais déposer au mois de juillet. Et malheureusement, avec la dissolution, je ne peux pas la déposer, mais je me bats et j'en ai déjà reparlé avec le Premier ministre Gabriel Attal, qui d'ailleurs s'en sert un peu dans les annonces qu'il fait, parce qu'il parle de l'augmentation des salaires sur la prime Macron qui va passer à 10 000 euros. Alors ça concerne beaucoup de Français. Certes, en moyenne, ils ont tous touché 300 euros de prime. Je rappelle qu'on ne paye pas de cotisations sociales, on ne paye pas d'impôts dessus non plus. Et notre objectif, c'est de faire en sorte d'augmenter tous les salaires chaque année. Quand aujourd'hui, on a 2 blocs qui nous proposent d'augmenter que le SMIC. Les Français ne veulent pas être au SMIC. Nous, on veut désmicardiser la société. Désmicardiser la société, ça ne veut pas dire qu'on va retirer le SMIC. C'est de dire qu'on peut rentrer dans un métier au SMIC, mais on aimerait que dans les 3 ans qui suivent, la personne ne soit plus au SMIC. Parce que le SMIC, c'est le salaire minimal. Et le salaire minimal, ça ne permet pas d'avoir la possibilité de pouvoir vivre dignement toute sa vie et d'évoluer avec le temps. Parce que ça ne couvre pas non plus toujours les problèmes d'inflation, le développement économique, les nouveaux marchés qui s'ouvrent aussi à nous, parce qu'on a une société de confort, on a de plus en plus de choses, on a un marché international qui nous permet aussi de consommer plus, et c'est parfois compliqué de vivre ces moments-là, il faut pouvoir suivre ça. Et pour ça, il faut arrêter de parler simplement de ce qu'on appelle les smicards, mais de l'ensemble de notre société, avec des personnes qui, pour certains, n'ont pas été augmentées depuis 10 ou 15 ans. Et moi, j'arrive toujours pas à comprendre qu'on ne prenne pas en compte l'ancienneté dans l'entreprise ou dans la branche. Parce que c'est important de prendre l'ancienneté. C'est aussi de fidéliser et de valoriser son salarié. Donc ça, c'est les combats que nous sommes en train de mener. Et je pense des combats qui parleront à tout le monde. Et pas simplement à une partie des Français. À force de faire des fausses promesses, ou de dire on va faire A, et en fait dans l'après-midi on dira en fin de compte on va peut-être pas faire A, on va faire B, on va peut-être faire C, parce qu'en fait c'est encore plus compliqué que prévu, ce ne sont que des renoncements. Nous on a dit beaucoup de vérités, on nous l'a beaucoup reproché, mais tout ce que nous avions dit que nous allions faire, nous l'avons fait. Alors certes, ça
ne répond pas... Il n'y a pas eu de fausse promesse de votre part, alors ce que vous dites.
Je ne dis, alors de ma part, ce qui est sûr, c'est que vous savez, c'est que je ne fais jamais de promesses que je ne peux pas tenir, parce que je ne veux pas faire plaisir à quelqu'un juste pour lui faire plaisir et la décevoir derrière. Ça, c'est mon ADN, parce que je l'ai vécu, je l'ai subi. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai quitté des partis politiques avant, parce que je partais du principe qu'on fait toujours de belles annonces, des grandes promesses aux Français, et derrière, il n'y a jamais la transformation de l'essai qu'on allait vouloir aplatir. Donc moi, je prends toutes ces considérations. Mon ADN, ça a été toujours d'être honnête, transparent, est disponible. Je pense que je l'ai toujours fait. Chacun prendra sa part sur si je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait. Et d'ailleurs, ça fait maintenant plus d'un an et demi qu'on échange chaque 5 semaines sur ces sujets-là. Donc ça prouve bien qu'il y a une forme de transparence et d'accompagnement à ce que nous faisons. Et là, en face, on a des personnes qui refusent d'accepter les gens avec qui ils travaillent, d'accepter les alliances qu'ils ont menées. Et ça commence à me poser question. Surtout que maintenant, on est en sortie de dissolution. On est tous en campagne. Et je ne peux pas accepter qu'on puisse encore autant mentir aux Français. Et ça, c'est vraiment mon leitmotiv. C'est-à-dire que moi, j'assume de dire des vérités, même si elles font mal, en disant on ne pourra pas le faire maintenant, mais voilà le combat qu'on va mener pour y arriver, que de dire on va le faire, on ne le fera jamais. J'ai... Allez, on va prendre...
Donnez-nous un exemple en la matière.
Non, mais au-delà de ça, je vais prendre mes deux principaux candidats qui représentent chacun un bloc. Le Front Populiste, Front Populaire dit on va augmenter le SMIC à 2000 euros. Le nombre de personnes qui vont passer d'un salaire médian au SMIC, il est énorme. On va passer plus de la moitié de la population au SMIC. Je ne suis pas certain que les Français aient envie vraiment de ça. On doit se battre pour l'augmentation des salaires. Là-dessus, il n'y a rien à dire. J'étais un des premiers à me battre et j'ai fait des propositions sur le sujet. Et d'ailleurs, j'espère que ma loi, si on fait à nouveau confiance, pourra être déposée rapidement à l'Assemblée nationale pour être étudiée sur le sujet. On nous explique depuis Paris, au Front Populaire à nouveau, qu'on va abolir le Concordat. Le Concordat où, malgré ce qu'on peut croire, nous sommes tous attachés. C'est nos particularismes d'Alsace-Moselle. Et il y a une histoire en Alsace-Moselle. Et mon candidat en face oublie de le rappeler et dit qu'il va défendre les particularités de la Moselle. Défendez le Concordat. On peut parler des cours d'éducation religieuse à l'école. Ce n'est pas le Concordat. C'est autre chose. Le Concordat nous permet d'avoir une véritable fraternité. Et moi qui ai travaillé sur la laïcité énormément, comme on l'a beaucoup échangé ensemble, je défends et les fidèles et les non-fidèles. Et aujourd'hui, ils sont en train de mettre de côté une partie de la population de notre département. Et de l'autre côté, j'ai une candidate, qui d'ailleurs la presse a étrié à plusieurs reprises, parce qu'elle est un peu amoureuse de l'époque de Pétain et qu'elle aime les groupuscules anti-musulmans, qui explique qu'ils vont augmenter le SMIC, mais maintenant Bardella vient de dire que non, qu'ils allaient revenir sur la retraite à 60 ans, mais Bardella vient de dire que non, qu'ils allaient travailler sur le pouvoir d'achat et la facture d'électricité jusqu'à 40%, Bardella vient de dire que non. À nouveau, voilà, nous on dit on va faire ça, 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 et tout ce que nous avons dit que nous allions faire, nous l'avons fait. Je ne prêche pas pour ma paroisse. Ce qui m'agace, moi, en tant qu'homme, être humain et citoyen, c'est de me dire qu'encore une fois, on flatte nos égos pour à la fin nous éloigner du système politique parce qu'on sait que ce n'est qu'un mensonge.
C'est bien ça qui éloigne très certainement les Français de la politique en général. Alors, je voulais vous poser la question suivante. Là, donc, il y a eu dissolution de l'Assemblée nationale. Pendant ce temps-là, vous êtes toujours député. Et pendant ce temps-là, il faut travailler. Vous étiez dans des commissions, vous nous l'aviez expliqué plusieurs fois. J'entendais ce matin à la radio sur France Inter que des agriculteurs s'inquiètent parce qu'il y avait des propositions de loi. Mais pour l'instant, c'est stand-by. Et si d'autres viennent en responsabilité, quid de tout cela? Enfin, vous comprenez, il y a une grosse inquiétude. Avant même d'aborder le fait que vous vous représentiez, pour l'instant, comment vous, en tant que député, vous vivez ce moment où il faut travailler à votre succession, c'est certain, mais vos commissions, vos rendez-vous, comment vous assumez tout cela en ce moment?
Ben, il n'y a plus rien, tout simplement, Jean-Marie.
Il n'y a plus rien.
Depuis le lendemain de l'annonce de la dissolution, le lundi, l'Assemblée nationale est fermée. Et malheureusement, moi, à date d'aujourd'hui, mercredi 19, j'ai dû licencier mes collaborateurs.
Ça, j'allais vous poser la question.
C'est aussi la réalité de la violence de la dissolution. Donc depuis maintenant 10 jours, avec mon équipe, on résilie les différents contrats qui nous lient avec la permanence, notre imprimante, leur contrat de travail, l'électricité, le gaz, tous ces sujets-là, on est en train de le traiter en ce moment.
C'est le facteur risque quand on est collaborateur ou collaboratrice d'un député?
Le facteur risque, il est et pour le parlementaire et pour son équipe. L'équipe qui s'engage derrière nous sait que c'est pas ad vitam aeternam, même s'ils ont un contrat à durée indéterminée. Et moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai une équipe magnifique qui m'a toujours accompagné, qui se donne énormément aussi pour moi et qui ne m'a pas lâché dès le lundi matin. Ils étaient là avec moi à 8h lundi matin. Et pour moi, c'est hyper important de montrer qu'on peut travailler encore. On est comme une petite famille, parce qu'on passe énormément de temps ensemble. Donc oui, il y a cette réalité de la dissolution. Donc là, il se passe rien. Et c'est pour ça que les gens sont inquiets. Mais c'est aussi intéressant. Alors, j'aime pas ce terme, mais on se retrouve tous face à nos responsabilités. Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour demain? Certains nous parlent de rupture, mais jusqu'où la rupture? Est-ce qu'on est prêt à tout perdre aujourd'hui? Parce qu'on est quand même un pays assez exceptionnel par rapport au reste du monde. D'ailleurs, on nous regarde en disant, mais pourquoi vous en êtes là aujourd'hui? Alors oui, il y a des problématiques, mais je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui sont montés en haut de boudin pour valoriser des peurs, mais je ne vois pas comment on répond à la peur par la peur. On le voit ces derniers temps où même moi, j'ai participé à décrédibiliser une partie de l'extrême gauche qui tenait des propos antisémites, qui a fait remonter l'antisémitisme dans notre pays, mais qui l'a fait remonter publiquement, qui a accepté de le faire dans ses discours. Comme si, depuis qu'on tapait sur l'extrême gauche, l'extrême droite ne l'était plus. La réalité, c'est que l'extrême droite l'est tout autant. On a la sensation en ce moment que tout est balayé d'un revers de main parce qu'on est sur un instant très court, de très court terme. C'est-à-dire qu'on oublie tout de ce qui s'est passé depuis un mois. Alors que l'extrême droite a toujours été antisémite et l'est toujours. D'ailleurs, pour preuve, c'est que depuis lundi, on a plein de candidats qui sont désinvestis parce qu'on se rend compte qu'ils ont été antisémites. Alors attendez, moi je ne comprends pas. Soit vous n'avez jamais regardé qui sont vos candidats, donc vous envoyez n'importe qui vous présenter. Et ça veut dire que derrière, vous ne comptez pas vraiment sur eux pour faire de la politique. Et vous cherchez juste des personnes pour vous représenter. Soit ils sont antisémites, vous l'acceptez, vous le saviez. Mais vous dites, bon, maintenant que c'est sorti publiquement, il faut qu'on nettoie derrière parce qu'on ne peut pas continuer, c'est une mauvaise image et compagnie. Mais moi je pose juste la question... Est-ce qu'on a le droit d'être antisémite d'un côté ? On n'a pas le droit d'être antisémite d'un côté, mais on a le droit d'être islamophobe de l'autre. La réponse est non. On doit être républicain. Et en République, on accepte tout le monde. On accepte toutes les diversités, toutes les religions, et on protège chacun. Ce n'est pas parce que d'un côté, il y a des personnes qui tiennent des propos antisémites et de l'autre côté, des propos islamophobes, que l'un est supérieur à l'autre. Toute haine envers n'importe quel Français ou n'importe quel être humain est une haine à combattre. Et je ne comprends pas qu'on puisse accepter ce genre de choses. La laïcité en France, elle est claire, nette et précise, et on ne doit jamais accepter un discours xénophobe. L'arrêté, c'est qu'on est en train de se dire qu'il y a une bascule et qu'on est en train de faire une espèce de classification dans les haines. L'arrêté, c'est qu'une haine est une haine, point barre.
Vous nous l'aviez dit, hein, je rappelle que vous êtes vous-même fils d'immigrés. Vous étiez venu d'Espagne, c'est cela ?
Ma maman vient d'Espagne, mon papa vient du Portugal. Mon arrière-grand-père a été fusillé pendant la guerre d'Espagne parce qu'il était républicain et qu'il se battait face à la dictature de Franco. Ils ont fui tous les deux la dictature, mes parents et mes grands-parents, hein, parce qu'ils ne sont pas venus tout seuls, ils sont arrivés en famille. Mon père a fui le Portugal parce qu'il y avait la dictature de Salazar. Ma mère a fui l'Espagne parce qu'il y avait la dictature de Franco. Et la France a été un espoir pour eux. Mes parents ont toujours travaillé. Comme des dingues. Malgré parfois les problèmes de santé de ma mère, malgré le handicap de mon petit frère, malgré que mon père n'était pas là et qu'il était à l'autre bout de la France et que moi je devais m'occuper de mon petit frère et ma petite sœur à 11 ans parce que ma mère était alitée, la France a toujours été là. Et donc moi je dois tout ça à la France parce que mon engagement il vient de là. Il vient de cette justice sociale, de cette capacité à accompagner les Français, à accompagner chacun d'entre nous pour qu'on puisse s'émanciper. Et on n'a jamais été abandonné. Oui, ça n'a pas été simple. On aurait toujours aimé avoir plus, parce que dans une période de difficulté, on a besoin de plus, c'est normal. On a besoin d'être écouté, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être réconforté. C'est pas toujours le cas, parce que ces difficultés, on les vit aussi en famille. Mais si on était resté dans ces pays-là, on ne serait pas où on en est aujourd'hui. Si je n'étais pas né en France de parents immigrés, je ne serais pas député de la République française, parce que ça n'aurait pas été possible de la même façon. Cette méritocratie à la française qui existe, alors certes, il y a des difficultés et on se rend compte que c'est un peu plus difficile aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Mais pour autant, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on doit tout jeter à la poubelle ? Est-ce qu'on doit tout jeter par la fenêtre ? Je ne suis pas certain.
Deux tours pour les élections à venir, dans 15 jours maintenant. Comment vous préparez votre campagne là ?
Alors j'allais dire comme d'habitude, mais en version hyper accéléré. Ça a été très complexe parce qu'il fallait que des garanties de la part de l'imprimeur, parce que je rappelle qu'on sort d'une élection européenne, donc il y a beaucoup de papiers qui avaient disparu pour pouvoir permettre de faire des prospectus de campagne, de la propagande et tout ce qu'il va avec. Donc on a dû faire tout ça, on a envoyé beaucoup d'informations, ce qu'il faut qu'on puisse communiquer aussi. Donc disons que ce qu'on fait normalement en deux mois, on l'a fait en 15 jours. Et ce que l'on fait normalement en l'équivalent de 3 semaines, ouverture de compte bancaire, d'accompagnement de documents de propagande, on a tout fait en 3 jours. Donc c'est assez rapide. Et après, on fait comme d'habitude. Je vais à la rencontre, je vais sur le terrain, j'échange. Alors certes, encore une fois, on ne verra pas partout, ce n'est pas possible, parce qu'on tracte jour et nuit. Hier, on a fini à 22h. Ce soir, on finira peut-être aussi très tard. On commence très tôt le matin. On nous voit dans les rues, donc tant mieux. Ça me fait plaisir aussi de voir qu'on est très présent. Et j'ai fait quelque chose de particulier. C'est que pour une fois, j'ai écrit à l'ensemble des concitoyens de la deuxième circonscription, mais pas en leur disant « je suis juste votre candidat ou votre député ». Je suis aussi un homme et je veux que vous sachiez qui je suis. Pour qu'on apprenne un peu à se connaître, parce qu'on ne se fait pas confiance parce qu'on ne se connaît pas. Et je pense que c'est important de se raconter des belles histoires. Et quand je vois tous les différents noms de famille qu'on voit sur les boîtes aux lettres de la circonscription, je me dis qu'on est nombreux à être dans ma situation et que si on est tous là, c'est qu'on a fini par avoir cette possibilité d'avancer. Et pour autant, je l'ai dit depuis le départ, je ne rejette rien des difficultés parce que je sais ce que c'est que d'avoir des difficultés importantes, qu'elles soient financières, médicales ou d'éloignement. Mais je le dis honnêtement, Notre pays ne part pas à volo. Il est juste en train de se transformer et cette transformation fait peur à beaucoup de Français.
Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux gens qui disent que le président a volontairement dissous l'Assemblée pour laisser la place au Rassemblement national pendant 2 ans pour mieux revenir après?
Alors, au cas où qu'on l'ait oublié, le président, il a son 2e mandat. Il ne peut pas se représenter.
Donc,
qu'il arrive, son objectif n'est pas un enjeu personnel. Il n'a pas la volonté de mettre le Rassemblement national, l'extrême droite.
Vous êtes certain de ça?
J'en suis certain. Pour avoir eu la chance d'avoir cette discussion avec lui, parce qu'il s'est exprimé, expliqué à plusieurs reprises sur le sujet. Et je ne vois pas pourquoi un président comme lui, qui est libéral, qui est social, humaniste, républicain, démocrate, malgré tous les défauts qu'il a, mettrait l'extrême droite à la tête du pays. Il n'en a jamais eu l'envie et il a toujours été le rempart contre l'extrême droite. Alors certes, malheureusement, je pense que d'être le rempart permanent, ça n'aide pas à faire de la politique parce que ça ne permet pas d'avancer, qu'on aurait pu réfléchir autrement sur des formes de coalition dès 2022. Mais tous ceux qui pensent ça font une erreur fondamentale parce que la politique, ce n'est pas de jouer avec le feu. Le président de la République a vu les résultats, il a vu l'état dans lequel nous avions des débats à l'Assemblée nationale, et il s'est dit, je donne la parole aux Français. C'est un référendum.
Ça a été à chaud, 2 heures après. Hein.
45 minutes après.
45 minutes après. Est-ce qu'on ne prend pas des décisions dans l'urgence, là?
C'est pas une décision dans l'urgence, ça a été mûrement.
Vous avez été surpris, vous,
Ludovic Mendes?
J'ai été surpris comme tout le monde, mais c'est une décision qui a été mûrement réfléchie avec son équipe, il a consulté, ça fait un moment que ça monte dans la presse. Si on regarde bien, on en parle depuis un certain temps. On nous explique qu'il y en aura une après les JO ou avant les JO, ou il y aura peut-être une motion de censure, pas de motion de censure. Donc tout ça, ça fait un moment que c'est dans l'air. Et il ne répond pas à la volonté de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen. Il dit au peuple français, d'accord, on a un problème, je vous redonne les clés. Et puis maintenant, on va débattre intelligemment, posément, sur l'avenir que nous voulons de notre pays.
La dernière fois, vous étiez presque 10, plus de 10, me semble-t-il. Et cette fois-ci, comment ça se passe, le contexte?
Alors là, on est 7 candidats. Je rappelle que quand on se présente aussi à une élection, il y a le financement des partis politiques. Donc il y en a certaines personnes qui se présentent pour pouvoir financer le parti politique à long terme. Là, on a le Rassemblement National, on a un représentant du Front de Gauche, donc avec l'alliance LFI, NPA, PS, et d'ailleurs qui n'assume pas parce qu'il ne met pas les logos sur ses tracts, ni sur son affiche. Et on a un représentant donc de Lutte Ouvrière, et on a deux candidats complémentaires qui sont des candidats sans parti, qui veulent porter un projet, une vision. Et c'est aussi ça la démocratie, c'est de pouvoir aussi s'exprimer.
La droite n'est pas là, pour le coup.
La droite n'est pas là aujourd'hui, comme elle n'est pas présente sur d'autres territoires, comme nous ne sommes pas présents sur d'autres territoires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis quelqu'un qui cherche à faire des coalitions, parce que je pars du principe que c'est comme ça qu'on avance et qu'on peut répondre à l'ensemble des Français. Je suis pour la proportionnelle intégrale. Donc à partir de là, je ne peux défendre que cette vision-là. Elle n'est pas là, ce ne sont pas des accords de parti, ce sont des discussions qu'ils y ont eues. Ils ont pensé que ce n'était pas une bonne idée de laisser potentiellement la place au Rassemblement National. Je les remercie, je leur devrai quelque chose, non pas d'un point de vue pécunier ou je ne sais trop quoi, mais je me suis toujours engagé à répondre à tout le monde et que ça soit. Moi, je me positionne comme je l'ai toujours fait, en essayant d'être fédérateur et rassembleur du centre, de la gauche et de la droite, parce qu'il y a des sociodémocrates aujourd'hui qui se sentent orphelins, parce qu'on a des personnes à droite aujourd'hui étiquetées LR qui se sentent orphelins par rapport à ce qu'a fait Éric Ciotti.
Je voulais vous en parler de ça. Comment vous percevez ça, vu de l'extérieur? C'est une forme de trahison quand même. Hein.
Alors, c'est une trahison de leur parti, je veux dire, les Républicains.
Ouais. Donc c'est la tête qui fait ça.
C'est particulier. La réalité, c'est qu'on a pu... moi, j'ai osé dire que c'était une collaboration avec l'extrême droite, comme il y avait une compromission.
Le vrai mot, collaboration.
Vous appelez ça comment? On parle de l'extrême droite. À partir de là, c'est assez compliqué. C'est d'aller sur cette aise, d'accepter de dire la même chose, de se vendre comme si on vendait une entreprise, on se faisait racheter sous forme d'OPA. C'est un peu ce que dit aussi Nicolas Sarkozy en disant voilà, il va se faire absorber et la droite républicaine et démocrate va disparaître. Donc c'est une forme de collaboration. C'est le parti du général de Gaulle, celui qui a été à la tête des résistants, qui a été à la tête de la France libre pour lutter contre Pétain, qui représentait l'extrême droite. Et il s'est compromis avec eux, et il collabore avec eux. Et derrière, il y a une compromission à gauche, avec des partis qui acceptent de s'allier au NPA ou à LFI, qui n'ont plus rien de démocrate, et les propos de Jean-Luc Mélenchon, les condamnations de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il insulte la République ou de ses députés, démontrent que quand on est un social-démocrate, un social-libéral, quand on est un socialiste ou un communiste, on n'a rien à faire avec eux. Et d'ailleurs, tous les matins, on ouvre les réseaux sociaux ou la presse, et ils sont en train de s'entretuer. C'est ça qu'on veut pour notre pays.
Merci Ludovic Mendes, notre invité tous les cinq semaines, vous l'avez dit tout à l'heure. J'en profite pour vous donner le retour d'un auditeur avec qui j'ai discuté hier soir et qui me dit « C'est super intéressant tes émissions avec Ludovic Mendes, au-delà de flatter mon ego perso, parce que je n'imaginais pas qu'il faisait tout ça ». Voilà, ça je me félicite de ça parce que c'était bien l'intérêt de départ. Puisqu'on vous reprochait de ne pas être présent aux fêtes patronales, etc., etc., où il est, il fait rien, on le voit pas. Ben, vous nous avez expliqué depuis plus d'un an et demi maintenant le métier, j'allais dire, la fonction et les occupations de votre poste de député. Nous allons terminer, si vous le voulez bien. Merci, hein, dans des temps aussi chauds pour vous, de nous accorder cette demi-heure. Je vais terminer par deux questions. Plus marrante que celle que nous avons abordée, enfin marrante, différente. Un, football, les Français, en ce moment, ça démarre plutôt pas mal, votre avis, en football, hein?
Alors j'espère qu'on sera champion d'Europe, moi je suis à 4000% derrière l'équipe. Comme tous les Français, j'ai été tétanisé quand Mbappé a été blessé, parce que ça reste notre meilleur joueur, c'est pas, l'équipe ne repose pas que sur lui, parce qu'on a une équipe formidable et on a, je pense, une des meilleures équipes du monde et qui va durer longtemps parce que cette équipe est jeune et qu'on a plein de pépites qui arrivent et à 2000%. Donc j'ai hâte de voir le prochain match contre les Pays-Bas. Et la réalité, c'est que ce soit la Coupe du Monde de rugby que j'ai vécu comme un grand dingue parce que voilà, c'est
vous êtes plutôt rugby que foot, vous, hein?
Non, je suis un amoureux du foot, mais je suis un meilleur rugbyman, donc c'est un peu plus simple pour moi de jouer au rugby parce que j'adore ce côté combat aussi. Donc on a la chance là, c'est que on sort d'une Coupe du Monde de rugby en 2023, on rentre dans la Coupe d'Europe où on peut encore supporter nos Français, et derrière il y a les JO.
Alors justement, c'était ma dernière question. Les JO dans tout ça, j'ai le sentiment quand même que si on gagnait par exemple ce championnat d'Europe en foot et que au JO on fasse une récolte de médailles, eh ben ça ferait du bien au moral à tout le monde aussi.
Mais parce que le sport c'est populaire et le sport ça nous fait tous du bien, et puis il y a cet amour du maillot. Et ce qui est intéressant, c'est que on s'en fout de qui porte ce maillot, parce qu'on part du principe qu'il représente notre pays. Et moi, quand je porte justement le maillot du 15 parlementaire, j'ai les mêmes petites sensations. Alors, c'est pas pareil, je suis pas un athlète de haut niveau, mais il faut se rendre compte que, qu'on soit amateur ou professionnel, le fait de représenter son département, sa région, sa ville ou son pays, c'est une fierté exceptionnelle. Et quand on parle avec ces sportifs-là, au-delà de simplement du combat qu'ils vont devoir mener face à leur adversaire, leur plus grand plaisir, c'est de porter le maillot de l'équipe de France. Et vous voyez, on est tous patriotes. On aime tous notre pays et on veut tous faire en sorte de faire vibrer notre nation lors de la Coupe d'Europe et des JO. Et j'espère qu'on vibrera le plus fort possible parce que c'est comme ça qu'on montre que la France est la France.
Merci Ludovic Mendes que nous recevions dans le cadre de nos entretiens mensuels pour voir avec lui quels ont été ses travaux dans les différentes commissions. Et là, eh bien, force est de constater que nous avons parlé de la dissolution de l'Assemblée nationale et du coup du fait qu'il se représentait. À bientôt.
À très vite, j'espère.